Bien sûr, c'est très important de prendre des résolutions. Nous le disons toujours quand nous allons nous confesser, que nous récitons l'acte de contrition. Il faut quand même que c'est un sens concret. Il faut bien donc être précis autant que possible. Et c'est ce qui nous permet de persévérer. Et bien sûr, cela, nous allons donner quelques indications pratiques, mais c'est à adapter à chacun selon les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Donc, je commence par regarder les exercices de piété, donc la vie de prière, les sacrements. Bon, la prière, vous avez la prière vocale et la prière mentale. La prière mentale, c'est l'oraison, la méditation, puis vous avez la prière vocale. La prière vocale, c'est toutes les autres. Prière du matin et du soir. Il ne faut pas attendre, il faut le faire tout de suite, dès qu'on est levé, à genoux, au pied du lit. Si vous attendez, vous la ferez à midi. Et encore. Alors, ce n'est pas très long, la prière du matin, vous prenez les actes de foi, d'espérance, de charité. Enfin, l'acte d'adoration de Dieu, les actes de foi, d'espérance, de charité, l'offrande de la journée pour que toute la journée soit surnaturalisée par ce premier acte. Et puis un autre Père, je vous salue Marie, des demandes de grâce pour les points particuliers de la journée, les moments difficiles de la journée. Mais ça prend 2 minutes, 3 minutes, donc on ne dise pas qu'on n'a pas le temps. Ou alors qu'on se couche 2 minutes plus tôt, comme ça on a 2 minutes de plus le matin et on a le temps de le faire. C'est très important de surnaturaliser sa journée dès le début. Donc, puis la prière du soir, donc avant de se coucher, et c'est à ce moment-là qu'il faut faire l'examen de conscience. Bon, il peut arriver que certains n'arrivent pas à faire l'examen de conscience le soir, à ce moment-là, qu'ils prennent un autre moment de la journée pour le faire. Ça peut arriver. Ça, ce sont des prières un petit peu personnelles en général. Il faut qu'il y ait aussi la prière en famille. Alors, la prière en famille, la plus recommandée, bien sûr, c'est le chapelet. C'est les papes et puis la Sainte Vierge nous ont tellement recommandé le chapelet, et surtout le chapelet en famille, que je crois qu'il faut un peu obéir. Alors, lorsqu'il y a des enfants, bien sûr, il faut tenir compte de leur âge. Ils peuvent, quand ils sont tout petits, ils ne peuvent pas tenir tout, peut-être, quand même. Il faut les faire prier, ça facilite. Si vous leur faites réciter « Je vous salue Marie », ça les intéresse, ça les aide. Pour certains, aussi pour certaines, peut-être qu'on peut le répartir dans la journée. On peut couper en deux le chapelet ou en trois, enfin, suivant les possibilités, et le placer avant les parties importantes de la journée, comme ça vous sanctifiez les parties importantes de la journée. Bon, ça peut aider. Là, il faut s'adapter un petit peu suivant les circonstances. Mais il faut s'appliquer à le dire. Donc, prière en famille, et je dirais aussi prière pour la famille. C'est-à-dire que les pères et mères doivent prier pour leur famille, pour leurs enfants. C'est... Bon, je pense que vous le faites, mais c'est très important. Prier pour les membres de sa famille. Alors, notez bien qu'il y a la prière en famille, mais il y a aussi la prière personnelle. La relation personnelle, unique avec Dieu. Et je crois qu'il faut bien le dire aux enfants, ou aux autres personnes avec qui nous vivons. Il y a la prière en famille, parce que la famille et la société, et la base fondamentale de la société, c'est la plus petite société qui est voulue par Dieu. Donc, comme telle, elle doit honorer Dieu. Donc c'est la prière publique, si vous voulez. La prière en famille, c'est la prière publique de la cellule fondamentale de la société, qu'elle doit offrir cette prière à Dieu, mais les personnes, les individus, doivent avoir leur propre prière, leur propre relation à Dieu. Donc veillez aussi à celle des enfants, parce que souvent c'est oublié. Puis en famille, bien, surtout pour le chapelet, donner des intentions particulières, il faut un peu de variété, quoi, pour pas que ça vienne la routine. Bon, les occasions d'intention de prière ne manquant pas. Bon, la prière avant les repas, l'Angélus, bien sûr. Donc, ça, c'est la prière vocale. Ensuite, vous avez la prière mentale, donc la méditation, l'oraison. L'oraison est la nourriture de la charité, et la charité est le moteur. Alors, il faut nourrir le moteur par la méditation, et la méditation elle-même, vous allez la nourrir par la lecture spirituelle. Il y a un tout. La lecture spirituelle facilite l'oraison, la méditation, et la méditation excite la charité. Et vous avez le moteur de la vie intérieure. Si vous enlevez le moteur, ça ne marche pas. Bon. Donc, il faut bien mettre ce moteur. Alors, si vous voulez, l'oraison, c'est le rendez-vous du matin avec le bon Dieu. Alors, c'est plus important que tous les autres rendez-vous. Ben oui, quand même, le bon Dieu, c'est plus que les autres. Alors, il semble bien que ce soit parfois un petit peu difficile pour chacun de vous. Alors, il faut prier, faire la prière à l'Esprit-Saint et à la Très-Sainte Vierge Marie au tout début. Et puis, n'omettez pas l'acte de contrition, ou tout du moins vos souvenirs de votre misère, pour paraître devant Dieu dans l'humilité. Et cette humilité attire Dieu. Donc, la prière à l'Esprit-Saint, à la Sainte Vierge, et puis cette humilité, cette adoration devant Dieu. Alors, ensuite, il faut le corps de l'oraison, bien. Prenez la lecture méditée d'un livre. Ça peut beaucoup faciliter la tâche. Vous prenez un livre qui vous convient. De préférence, celui que vous utilisez pour la lecture spirituelle. Comme ça, vous avez l'harmonie, l'unité. Mais cette lecture méditée, vous la faites tout doucement. Il s'agit de réfléchir sur ce qui est dit, que ça pénètre en vous. Vous faites, comme je le disais, un petit peu comme les vaches, vous ruminez la lecture. Donc il ne s'agit pas d'en prendre beaucoup, mais que ça rentre, et que à travers ce que vous lisez, le Saint-Esprit agisse en vous. Car c'est le Saint-Esprit qui nous fait prier et qui élève notre âme vers Dieu. Donc il y a l'instrument qui est le livre. Le but, ce n'est pas de le dévorer, le but, c'est de lire ce qu'il faut pour que notre âme puisse s'élever vers Dieu, par les actes de foi, d'espérance, de charité. Donc, utilisez le livre. Sainte Thérèse d'Avila, pendant très longues années, beaucoup d'années, faisait cette lecture méditée. Alors, bien sûr, si le livre de lecture spirituelle que vous prenez vous est favorable, ben c'est beaucoup mieux parce que vous avez l'harmonie, l'unité. Dans les exercices de piété, j'ajoute, ce n'est pas indiqué là, l'examen de conscience. Le soir, c'est important. Donc, le plus simple, c'est de faire les heures de la journée. On prend la journée heure par heure, puis chut, assez rapidement. Et puis, il y a le point particulier, la résolution qu'on essaye de tenir, que l'on regarde. Et puis, j'ajoute la lecture spirituelle, donc. Il faut choisir le moment favorable. Donc, ça, à bien choisir. Qui soit à peu près le même tous les jours. Bon, on conseillerait volontiers le soir avant de se coucher parce que ce que vous avez lu pénètre dans l'esprit et est utile pour la nuit. Bien choisir le livre, il faut demander conseil. En général, il faut prendre les écrits de saints ou de auteurs très recommandables. Et puis, ce qui vous convient, parce que tel livre peut vous convenir et ne convient pas à une autre, mais tel livre peut vous convenir à tel moment de la vie spirituelle, puis à tel autre moment, il ne convient pas du tout. Donc, c'est là où le choix est très personnel. Et un seul livre, ne multipliez pas les livres. un seul livre de lecture spirituelle. Et on le prend du début à la fin. Sauf si vraiment il ne nous convient pas, alors, auquel cas il faut l'arrêter, mais en général il faut aller jusqu'au bout. Et donc, comme je disais, celui qui va nourrir l'oraison, qui va vous permettre de bien faire oraison, qui va vous aider pour l'oraison. Parce que sinon, on multiplie les livres, les lectures, et on s'y perd, alors, c'est pas la peine. Déjà, vous n'avez pas beaucoup de temps en général, donc faites l'harmonie. Donc voilà pour la vie de prière. Ensuite, les sacrements. C'est essentiellement la confession et la communion avec la messe, bien sûr. Alors, la confession est un grand moyen de progrès spirituel. Le pape Pie XII a donné 8 avantages de la confession fréquente. Bon, malheureusement, il y a des confrères qui ont fait un petit résumé de ce qu'un prêtre avait fait sur le sujet, un petit résumé qui tient 2 feuilles, sur les avantages de la confession fréquente. Malheureusement, je l'ai oublié. Puis le pape Pie XII donc, donne 8 avantages. Donc, la confession fréquente, c'est d'abord, bien sûr, la grâce de Dieu qui descend dans le cœur pour guérir la racine, les misères du péché. C'est important, c'est la grâce de Dieu qui agit. Ensuite, c'est un grand moyen de nous connaître et aussi le bon moyen de demander conseil au prêtre après la confession. Alors, combien de fois? Eh bien, au moins une fois par mois, ou bien toutes les 3 semaines ou tous les 15 jours. Et si la tentation est plus forte, on se confesse plus souvent. Parce qu'il faut vaincre. Voilà. Alors pour la confession, n'oubliez pas que le principal, surtout lorsqu'on se confesse souvent, que le principal, c'est la contrition. Donc, la préparation à la confession, ça ne sera pas tellement de chercher ses péchés, il faut les chercher bien sûr, mais ça sera surtout se préparer à la contrition. Si la contrition est profonde et qu'elle est permanente, comme le dit Dom Marmion dans un de ses livres, ça doit être dans l'idéal du moine, il y a tout un passage sur ce qu'il appelle la componction, c'est-à-dire la contrition permanente, qui vient de l'amour du bon Dieu. Si cette contrition est permanente, vous posez un obstacle au péché. Et plus elle est forte dans l'âme et provenant de la charité, je dis bien provenant de la charité, donc ce n'est pas une crainte, c'est vraiment pour l'amour du bon Dieu, vous posez un obstacle. Et quand la tentation arrive, elle trouve quelque chose qui s'y oppose. Alors, Dom Marmion le dit, et puis tous les auteurs le disent, lorsqu'on n'a pas beaucoup de péchés à confesser ou des péchés véniels où on n'a pas l'impression qu'il y a grand-chose, on peut accuser une faute passée déjà pardonnée. On dit par exemple, je m'accuse de tous les péchés de ma vie passée, en particulier contre tel commandement ou telle vertu, sans aller davantage. Sans revenir dans les détails, il ne s'agit pas de refaire une confession complète, non. Mais dit, voilà, j'accuse mes péchés passés contre telle vertu ou tel commandement. Et comme on en est le regret, et que ce regret est encore présent, ça permet de bien avoir la confession et que la grâce sacramentelle revienne sur ça pour guérir et pour nous aider à expier le péché. C'est un conseil que donnent les auteurs spirituels. Puis donc la contrition, et vous savez que la contrition, on dit toujours « je prends la ferme résolution », donc il faut que ça soit quand même une réalité, cette résolution, donc il faut nous contrôler, il faut bien nous y appliquer, et c'est l'importance de la direction spirituelle avec le prêtre, et puis de l'examen de conscience. Donc le point particulier, le défaut dominant ou la vertu à pratiquer. Mais c'est un grand, grand moyen de perfection. Ensuite, la communion, la messe. Donc, quand nous allons à la messe, eh bien, apportons tous nos sacrifices, toutes les peines de chaque jour, pour les unir au sacrifice de notre Seigneur. C'est tout simple, à l'offertoire, il faut tout donner. Puis la communion, bien sûr, préparation et action de grâce. Avec foi, c'est-à-dire que ça peut ne pas être senti, mais je crois qu'il est là, puis c'est tout. Parfois, ça ne sera ça. Je vais communier, je n'ai aucun sentiment, j'ai même peut-être du dégoût, mais bon, je sais que Jésus est là, je suis bien disposé, ben j'y vais. Oui, aussi petit rappel sur les conditions pour la communion, bien sûr, être en état de grâce, c'est évident, mais l'intention droite, ben c'est l'intention de plaire à notre Seigneur. Si vous faites vous avez des péchés véniels, mais si vous avez fait des efforts pour vous corriger et aimer davantage le bon Dieu, ben il n'y a pas d'obstacle à communier, hein, même si on a des péchés véniels. L'obstacle, c'est le péché mortel. Mais si on a des péchés véniels, mais qu'on fait effort pour lutter contre, bien, non seulement nous pouvons, mais il faut aller communier, parce que la communion va vous donner la force de la charité. Donc, préparation et action de grâce, ça c'est important. L'action de grâce, surtout. Jésus est là, présent en nous. Donc, sans nier l'importance de parler avec les autres à la sortie de la messe, je pense que quand même, il faut nous dire qu'il faut savoir prendre le temps de parler avec Jésus-Christ. Je ne nie pas la charité fraternelle, mais il le faut, hein, bien sûr, à la sortie des messes, il faut parler ensemble, mais quand même, il faut donner la préférence à notre Seigneur. Et puis, lorsqu'on ne pouvons pas aller à la messe, vous avez la communion spirituelle. À la fin de l'oraison, quand vous avez fait votre méditation, pourquoi ne pas faire la communion spirituelle? Prenez une prière, vous manifestez votre désir à notre Seigneur de le recevoir. Communion spirituelle qui peut prendre une minute, c'est tout, c'est pas compliqué, mais vous demandez à Jésus qu'il vienne. Bon, vous avez bien sûr la visite au Saint-Sacrement. Oui, ça, c'est une petite remarque aussi. Quand vous allez au prieuré ou à la chapelle, etc., voir le prêtre ou voir un tel, ben, il y a la chapelle. La plupart du temps, on va voir tout de suite les personnes qui sont là et on ne fait même pas la visite au Saint-Sacrement. Ben, commençons par le Saint-Sacrement et allons voir les personnes après. C'est quelque chose que l'on remarque tous, mais... Bon, bien sûr, aimer le missel, aimer le consulter, etc. Ça, les exercices de piété. Donc, prière, sacrement, examen de conscience, lecture spirituelle. Ensuite, les vertus et défauts. Donc, c'est ce qui a marqué ensuite, vertu à pratiquer, où vous avez vertu spéciale à cultiver, lutte contre le défaut dominant et devoir d'État. Alors ça, je le mets ensemble, l'emploi du temps, je le réserve pour après. Donc, esclavage à supprimer, tout ça, ça va avec les vertus ou les défauts. Donc c'est un petit peu ce que j'ai dit sur le combat spirituel contre le vieil homme et ce qu'on a dû vous dire aussi pour la pratique des vertus, puisqu'on vous a parlé des vertus. Donc je ne reviens pas trop sur ce que j'ai dit, vous pourrez le relire. La connaissance de nous-mêmes, donc de notre défaut ou de la vertu à pratiquer, cette connaissance de nous-mêmes viendra de l'examen de conscience et de la confession fréquente. Donc, on vous indique quelques esclavages à supprimer. Bon, télévision, cinéma, sorties, cigarettes, alcool, excès de nourriture, friandises, coquetterie, mode, revue mondaine inutile. J'ajoute temps excessif au téléphone. Je dis bien temps excessif parce qu'il peut être nécessaire de l'utiliser, mais on ne va pas passer tous les soirs une heure au téléphone. Je ne pense pas vraiment que ça soit nécessaire. Ou aussi pour d'autres, peut-être davantage pour les hommes, enfin, le temps excessif devant les ordinateurs aussi. Ben oui, il faut faire attention. Donc, rappelez-vous bien ce que nous avions dit sur le combat spirituel contre le vieil homme. ne pas agir sous le coup d'une passion excitée, attention à tout ce qui entre par les cinq sens, et puis diriger les pensées, les désirs vers le bien, vouloir le bien, et vouloir le bien, celui du moment présent. Ajay Kodachis, fais ce que tu as à faire maintenant. C'est à vouloir le bien de maintenant, donc se fixer dans le bien, sinon on papillote à droite, à gauche, et on ne fait rien. Donc ça, c'est dans la vertu à pratiquer, c'est cette force à avoir pour faire le bien du moment présent. On vous indique aussi, vertu spéciale, lutte contre le défaut, le devoir d'État. Le devoir d'État, c'est le devoir ou familial ou professionnel. En général, c'est cela, familial ou scolaire. Bon. La compétence, pour celles qui travaillent, la compétence professionnelle. Être si compétent et indispensable que même si on veut vous mettre dehors, on ne le fait pas. Vous mettre dehors parce que vous êtes catholique, d'accord. Mais on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas se passer de vous. Ça, c'est la compétence. Et bien, il faut essayer d'y tendre pour celles qui travaillent, mais ça doit être la même chose à la maison. Hein. Pour celles qui, et c'est ça qui est à souhaiter, hein, que vous soyez chez vous dans la maison, bien sûr. Cette compétence est très importante. C'est à la maison, dans le foyer familial ou bien aussi dans le milieu professionnel. Alors j'ajoute quelques points particuliers. Je pense qu'on a dû vous les dire, enfin j'espère, mais je les rajoute. Je dois avouer que j'avais préparé ça avec mon confrère avant qu'il parte en camp, avec l'abbé Cotard. Alors bon, je me permets de vous le dire quand même. Donc c'est particulièrement pour celles qui sont mariées. Donc par rapport au mari, il faut faciliter l'exercice de son autorité. C'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui doit l'exercer, et il faut faciliter l'exercice de son autorité. Il ne faut pas prendre la place. Prendre soin du salut de son âme, de son progrès spirituel. Même s'il arrive par le malheur des temps qu'il y ait des divisions dans les familles, qu'il y ait des séparations, bien, il faut quand même prendre soin de l'autre, de son salut éternel. Ensuite, il faut qu'il y ait un temps d'intimité à deux, parler et prier. C'est indispensable. D'abord parce qu'il y a des choses dont on ne peut parler ni devant autrui, ni devant les enfants, et dont il faut bien parler. Ne serait-ce que de parler de l'éducation des enfants. En général, on ne parle pas de ça devant les enfants, leur éducation. Donc, il faut prendre ce temps, il faut le prévoir. Il y a eu dans Marchons droit quelques petites choses sur ce point-là. Quelques pages dans les années passées. Là. Et puis, un petit truc aussi, quand le mari rentre le soir fatigué, eh bien, laissez-lui un quart d'heure de repos avant qu'il voie les enfants. L'expérience de famille. Oui, il revient fatigué, peut-être énervé, ben laissez-lui un quart d'heure de repos avant qu'il voie les enfants, comme ça il verra les enfants reposer et tout se passera mieux. Ça, par rapport au mari, donc, des petites choses. Par rapport au foyer, ou même par rapport au métier, ou par rapport à la paroisse, il faut prendre sa place dans le foyer, ou dans le métier, ou dans la paroisse, sa place tout entière, mais pas une autre. C'est un peu ce que je vous disais, qu'on ne doit pas s'occuper des affaires des autres, mais de la sienne. Donc on prend sa place, mais pas plus. On la prend tout entière, mais on ne prend pas une autre. Et puis, je vous invite beaucoup, bien sûr, à lire ce que dit Pie XII sur l'épouse soleil du foyer domestique. Soleil du foyer domestique, il y a de très belles choses dans Pie XII. Pie XII a fait beaucoup de discours aux jeunes familles à Rome. Et les éditions Clovis là, ont fait un recueil de ce qu'il y avait de plus intéressant. Je pense, lisez-le, il y a vraiment de très belles choses, de belles indications. Ensuite, par rapport aux enfants, il faut s'occuper de tous, quel que soit l'âge, bien sûr. Il faut que chacun des enfants se sente aimé autant que l'autre, se sente aimé autant que l'autre, que les autres, que chacun d'eux. Et puis, dans la période difficile des 13-17 ans, il y a une part d'éducation qui, pour la fille, revient à la mère et le garçon au père. Chose de la vie. Et la nécessité de parler, le besoin qu'ils ont de parler, ça, la mère pour la fille et le père pour le garçon. Et puis, ne les traitez pas comme des enfants à cet âge-là. Ils ne sont plus des enfants, ils sont en passe de devenir adultes, donc traitez-les comme de futurs adultes. Si je le dis, c'est qu'il y a une raison de le dire. Donc, futurs adultes, surtout pour les garçons, qui vont exercer une responsabilité, une autorité plus tard. Donc, il faut qu'ils se prennent en main, qu'ils deviennent des hommes, et il faut qu'ils aient leur une certaine indépendance, que peu à peu, ils prennent leur indépendance. Et donc, la manière de réagir envers eux n'est plus la même que la manière d'agir envers ceux qu'on dit ans. C'est pas pareil. Il faut accepter qu'ils prennent leur certaine indépendance. Sinon, ensuite, on vous parle de la formation religieuse, de l'action. Donc ça, c'est un petit peu selon vos possibilités. Apostolat de l'exemple. Bon, la formation religieuse, la doctrine, bien sûr, il faut nourrir votre intelligence de la doctrine, mais adaptée à votre situation de vie. Évidemment, si vous êtes, je sais pas, institutrice par exemple, ben, la doctrine, ça va, l'étude de la doctrine va s'orienter pour bien faire le catéchisme aux enfants, bon, ou répondre à leurs questions, parce qu'ils posent des questions à n'importe quel moment de la journée, il faut savoir répondre tout de suite. Parce que si vous répondez une heure après, ça passera plus, il faut répondre maintenant, quand ils posent la question. Alors, c'est vrai pour les mères de famille aussi, bien sûr. Bon, donc, adapter à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Bon, après l'action, bon, ça c'est à voir chacun selon ses possibilités et le temps qui lui reste, etc. Sauf un petit mot sur l'apostolat organisé, les cercles de tradition ou autres. Ce sont des moyens qui permettent de se connaître dans une chapelle, de se connaître, de tisser des liens de charité, d'amitié, et c'est important pour le soutien mutuel. Parce qu'on a besoin, dans les circonstances actuelles, de s'entraider. Et bah, faut choisir toutes les occasions qui permettent de se connaître et de tisser les liens de la charité et de l'amitié. Alors maintenant, un petit peu l'emploi du temps. Je vais utiliser un petit peu ce bréviaire des jeunes qui a été fait par le père Reynaud, qui est maintenant décédé, qui a été pendant de très longues années aumônier du MJCF et ensuite aumônier chez les sœurs du Raflet. Vous pourrez prendre, il y en a une cinquantaine, vous pourrez prendre, moyennant 5 francs, parce qu'il faut quand même que je donne quelque chose aux sœurs du Raflet qui l'ont fait. Alors vous mettez 5 francs si vous voulez bien. Donc je vais vous l'utiliser pour l'emploi du temps, pour les principes. L'emploi du temps est très important parce que c'est l'expression concrète de la volonté de Dieu. Une fois qu'il est établi et vérifié par le directeur spirituel, par le confesseur habituel, le directeur spirituel, c'est l'expression concrète de la volonté de Dieu qui rentre dans les détails. Et puis aussi, c'est une grande pénitence. Alors, si vous n'avez pas d'autre pénitence que celle-là, prenez celle-là, ce sera déjà beaucoup. Et pour certaines, en tous les cas, c'est une pénitence très, très dure. Alors, quels sont les principes les éléments plutôt qui doivent entrer en compte pour établir un emploi du temps. Il y en a sept, enfin le Père Hénault a fait cela comme ça, sept. Et je pense que c'est son expérience, c'est pour ça que je me permets de m'appuyer là-dessus, parce que c'est son expérience d'éducation de la jeunesse et auprès des familles aussi. Alors, premier élément, vivre. Ben oui, nous ne sommes pas des anges, nous avons un corps aussi, donc. Le sommeil, la nourriture, la détente. Donc j'ai un horaire précis pour le lever et le coucher. Vacances ou pas vacances, travail ou pas travail, toujours ou à peu près toujours le même horaire. Le corps a besoin de repos. Et si on se couche trop tard, le lendemain on est fatigué et par conséquent on est énervé et on se met en colère contre les autres. Bon. Donc souvent, la première cause de l'impatience ou de la colère, c'est parce qu'on ne dort pas assez. Alors, et là il faut, pour le corps, il faut la stabilité. Hein. Tous les jours, même heure de coucher et même heure de lever. Sauf exception, bien sûr. Bon, ça, je comprends bien, surtout quand il y a des petits-enfants en bas âge, là, c'est clair que c'est un peu difficile. Mais en principe, l'horaire régulier. Ensuite, manger et boire comme il faut. Oui, ça paraît idiot, mais je pense à ceux en particulier, à celles qui sont seules. Ben on fait ça à toute vitesse, un peu n'importe comment, mais les résultats ne sont pas bons. Car si le corps fonctionne mal, et ben l'esprit, ça divague, c'est tout. Donc il faut, bon, quand on est en famille, c'est quand même plus facile, parce qu'on le fait pour les autres, donc on s'y force. Mais donc il faut manger et puis boire, non pas pour le plaisir, bien sûr, mais parce qu'on a besoin des forces corporelles. Le corps est l'instrument de l'âme, et l'âme a besoin de cet instrument. Nous ne sommes pas esprit tout court, nous ne sommes pas des anges, nous sommes corps et âme. Donc il faut que le corps fonctionne comme il faut. Donc il faut lui donner ce dont il a besoin, et ça dépend un peu de chacun, bien sûr, des circonstances, etc. Mais on doit avoir donné au corps ce qui est nécessaire. Puis la détente aussi. Détente convenable, ce qui est bon pour moi, au moment... qui conviennent, quoi. Mais il faut, hein. Tous les saints l'ont fait. Tous les saints l'ont fait. Et ils prennent souvent l'exemple d'une corde trop tendue. Une corde trop tendue, elle finit par casser. Alors il faut détendre. C'est tout. Je lisais hier soir saint Antoine le Grand, donc moine au désert. Un jour, il y a des... Il était en train de rire joyeusement avec d'autres frères, d'autres religieux, et puis d'autres moines du désert, enfin, qui venaient le visiter, et ils étaient un petit peu étonnés qu'ils le voient comme ça. Ou je ne sais pas, quelqu'un qui visitait était un peu étonné de le voir rire un peu comme ça. C'est un peu surpris, ce moine de si grande réputation qui se permet de faire ça. On le croyait très austère. Et il prend cet exemple, il dit, mais prenez votre arc et puis tirez dessus. Puis allez, encore plus. Puis l'archer lui dit, bah, si je vais plus, ça va casser. Bah, pour moi, c'est pareil. Il faut savoir prendre un peu de détente de temps en temps. Pour physique, ça peut être détente physique, se dépenser un peu physiquement. Bon. Donc, premier aspect, vivre. Ensuite, le devoir d'État. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure un petit peu. Comme catholique, je dois briller par la compétence, la valeur, l'application. Le sérieux, quoi. On voit le travail, on s'y applique pour qu'il soit bien fait. Bien sûr, on ne sera pas forcément le plus fort, le plus compétent de tous, mais on verra qu'on s'y applique pour que ce soit bien fait et qu'on peut compter sur nous. Quand on demande quelque chose, oui, c'est fait. Et fait comme il faut. Et je tiens compte de toutes les observations qu'on peut me faire pour m'améliorer. Et oui, il peut toujours arriver qu'on nous fasse des observations. Le mari sur sa femme, l'employeur sur son employé. Ben, il faut en tenir compte, il ne faut pas s'énerver. J'essaye d'en tenir compte pour devenir meilleur. L'humilité, l'orgueil n'aime pas beaucoup, mais il faut en fait tirer parti. Et je me souviens que c'est par un travail acharné et soutenu que l'on arrive. Il faut persévérer, oui, là aussi. Ensuite, prière ou vie intérieure, donc ça nous l'avons vu. Parents et famille, J'en ai dit un petit mot tout à l'heure, mais de manière individuelle, je dois être attentif à créer un climat de joie, de paix, de confiance, d'entraide, de dévouement, de service dans la famille. Entretenir cette bonne humeur, cette paix. Ça, c'est le quatrième aspect, il faut tenir compte. C'est le quatrième commandement, parents et familles. On se doit aux siens. On doit s'occuper des siens et entretenir la charité fraternelle. Être attentif aux besoins des uns et des autres. Ensuite, la formation doctrinale, la formation de manière générale, doctrinale, donc il faut approfondir sa religion, c'est ça que nous en avons dit un mot tout à l'heure déjà. Et puis, on peut aussi s'informer de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais bien sûr en allant là où on est sûr que ça soit à peu près vrai. Parce que... Bon, sixième point, il y a l'apostolat, bien sûr. Et je suis conscient et persuadé qu'être apôtre missionnaire, c'est avant tout le trop-plein d'une intense vie intérieure. Pas d'activisme. L'activité extérieure doit être dans la même proportion, par rapport à la vie intérieure, doit être dans la même proportion que la partie visible de l'iceberg par rapport à la partie invisible. C'est-à-dire, je crois, 1 pour 10. Et un peu comme la vie de notre Seigneur, 3 ans. De vie publique pour 30 ans de vie cachée, de vie intérieure. Donc la partie active est beaucoup plus petite que la partie de vie intérieure. C'est le trop-plein. Et puis surtout, c'est Jésus vivant en nous qui fera du bien. Donc l'apostolat d'exemple, bien sûr. Et puis... Il y a aussi les imprévus, le septième point, septième élément fondamental, il y a les imprévus. Il faut prévoir les imprévus. Tout dépend de Dieu, bien sûr, rien n'échappe à Dieu, et ben, il permet qu'il y ait des choses qui arrivent dans notre vie, qu'il y ait des événements un petit peu imprévus. C'est normal. Alors, si l'imprévu est important et exigeant, je lui donne la priorité et le temps voulu, et après, je reviens à la normale. Mais si j'ai prévu les imprévus, c'est que j'ai un temps, je ne suis pas pressé par le temps, mais que j'ai un peu de souplesse dans l'emploi du temps, eh bien, je peux, les imprévus, je peux y arriver à les absorber. Alors, cet emploi du temps, quelques autres principes pour le faire. Il faut à la fois force et souplesse. Force et souplesse, il ne faut pas que ça soit un carcan, mais il ne faut pas que ça soit l'anarchie non plus. Parce qu'un carcan, ça va être insupportable, on va le rejeter, puis l'anarchie, ben, on ne fait rien de bien. Il ne faut ni l'un ni l'autre, il faut à la fois force et souplesse. Donc il faut des points fixes. Et c'est ça qui fera la force. Vous avez un squelette et qui va être bien solidement charpenté et qui va porter le tout, qui portera le reste. Ce squelette, ce sont les points fixes. Point fixe, heure de lever et de coucher. Et heure de repas. Oui, je sais, c'est déjà beaucoup pour certains. Mais c'est indispensable. Donc, point fixe, heure de lever et de coucher et heure des repas. D'où, par le fait même, vous fixez les heures de prière. Ben, elles vont se fixer toutes seules. Puisqu'elles sont proches ou du lever, ou du coucher, ou des repas. En famille, c'est l'heure de prier en famille, le moment de prier en famille, c'est près du repas, en général le soir. Donc, ayant fixé les heures de lever et de coucher, les heures de repas, vous fixez automatiquement les heures de prière et aussi les heures de préparation des repas. Donc vous avez déjà toute une partie qui est fixe, qui doit être stable à peu près. Bon, tout... Le temps n'est pas pris par cela, bien sûr. Donc après, la souplesse. Donc, dans le temps fixe, laissé ci-dessus, dans le temps laissé par ce qu'on a déjà fixé, eh bien, on va déterminer le reste. Là, vous avez des tâches, des choses à faire qui sont bien précises, bien déterminées, où vous pouvez dire, je sais que ça prend tant de temps, mais qui varient d'un jour à l'autre, ou d'une semaine à l'autre, ou sur un trimestre, ou même sur l'année. Mais il faut essayer d'en fixer le jour, ou bien, si c'est dans un trimestre ou dans l'année, en fixer la date, quitte à y revenir un peu plus tard pour essayer d'adapter, parce que bon, parfois obligé d'adapter quand on voit que ça ne va pas. Bon, je vous donne un exemple, excusez-moi, mais par exemple le linge, ben non, on ne lave pas le linge tous les jours, enfin je pense pas, on fait ça à jour fixe plus ou moins. Ben, il faut fixer le jour et le même chaque semaine. Comme ça vous avez cette stabilité, cette régularité qui fait qu'on ne s'inquiète pas des choses mais que ça vient tout seul. Et après quand l'habitude est prise, ben, ça se fait. Ou par exemple des visites à telle ou telle personne, ben on sait que c'est ou une fois toutes les semaines ou une fois par mois, ben on fixe le jour et l'heure et ça revient régulièrement à ce moment-là. Donc on sait que tel jour dans le mois ou tel jour dans la semaine, il y a une heure qui est réservée pour la visite, donc à ce moment-là on ne fait rien d'autre, on n'a rien prévu d'autre. Et ça revient, et c'est cette régularité qui aide, qui est précieuse. Vous avez d'autres tâches, d'autres occupations qui se fixent d'un jour sur l'autre ou d'une semaine sur l'autre. À ce moment-là, il faut prendre un agenda et inscrire sur l'agenda, tout simplement. On est parfois obligé, hein, vous avez des choses à faire. On sait qu'il y a ça à faire dans la semaine, mais faut le caser là où il y a de la place. Donc on se dit, bah, tel moment, il me reste de la place parce que, vu ce que j'ai déjà fixé, il me reste telle place à tel moment. Telle chose, ça me prend à peu près tant de temps, ben je le mets à cet endroit-là. Des petites cases qu'on remplit, si vous voulez. Mais c'est avec l'agenda qu'il faut faire ça. Et on prévoit les choses. On se dit, bon, tel jour, j'ai tel espace de temps, bon, il faut que je fasse ça dans la semaine, je le mets à ce moment-là, et puis, parce que je sais que je serai à peu près tranquille à ce moment-là, et puis voilà. Alors, bien sûr, ça ne marche pas toujours. Hein. On le sait bien, ça. Il faut aussi prévoir l'imprévu, bien sûr, faut que l'emploi du temps ait une certaine souplesse, mais à marge. Il ne faut pas que tout soit pris quart d'heure par quart d'heure ou minute par minute, parce que sinon, s'il y a un imprévu, bah, tout va casser. Donc il faut qu'il y ait une zone tampon, si vous voulez, qui permet d'absorber les imprévus et de faire les choses. Puis il faut donner du temps aux autres. Alors, par exemple, la disponibilité pour le mari et pour les enfants, bah, c'est quand ils sont à la maison. Donc il faut dégager un temps où rien n'est prévu. Le temps où père et enfants sont présents à la maison, et là vous dégagez un temps où vous ne prévoyez rien de particulier ou des petites choses qui ne sont pas trop difficiles, de manière à ce que vous soyez disponible. Alors c'est un ordre à mettre dans nos activités, mais l'ordre engendre la paix. Donc, si vous voulez que le foyer soit paisible, ben, il faut cet ordre. C'est absolument nécessaire. Puis même pour vous-même, pour être paisible en nous-mêmes, ne pas courir à droite à gauche, se dire « oui, mais j'ai pas encore fait ça, et puis il est 11h du soir, et puis j'ai encore ça à faire, etc. » Ben, il faut s'organiser. Feuille et écrivez. Prendre une feuille et écrire avec les heures, les jours. Sinon, ça va être du vague. Alors, les choses fixes et tout ce que vous pouvez à peu près fixer, eh bien, il faut mettre ça sur papier. Bon, le reste, qui s'adapte suivant les semaines, ça, on prend l'agenda et puis on utilise l'agenda, mais ce qui est fixe, qu'on sait que ce sera toujours la même chose, plus ou moins chaque jour et chaque semaine, mais il faut l'écrire sur le papier. Et puis, cet emploi du temps, on le fait contrôler par le directeur spirituel, par le prêtre à qui on s'adresse. Ça, c'est indispensable. Donc, l'importance du directeur spirituel sur ce point de vue, pour l'emploi du temps et puis toutes les résolutions que l'on a prises, il faut se faire contrôler. N'oubliez pas que les paroles des saints, le plus mauvais directeur spirituel, c'est nous-mêmes. C'est que nous ne pouvons pas nous diriger nous-mêmes, parce que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Je crois que c'est Saint Bernard qui dit, celui qui n'a pas de directeur spirituel, il a le diable pour directeur. Bon, il faut... Bon, vous, il faut vous faire aider par votre mari aussi, pour ceux qui sont mariés. Alors, le directeur spirituel peut être différent du confesseur, donc on peut se confesser régulièrement à un prêtre, lui demander quelques conseils, mais on peut avoir pour directeur spirituel un prêtre qui est beaucoup plus loin. On s'adresse à lui, soit par courrier ou même par téléphone. C'est tout à fait possible, surtout dans les circonstances actuelles où, malheureusement, les prêtres tournent un peu beaucoup, bougent. Alors, ça ne facilite pas les choses. Et puis... Là, l'importance, le prêtre, quand il nous connaît, ça, c'est quand même beaucoup plus facile. Puis bon, le bon Dieu nous ayant donné, en ces temps difficiles, le téléphone, ben, il peut être permis quand même de l'utiliser. Bon, puis il faut le voir de temps en temps, bien sûr, mais... Ben oui, mais... La crise de l'Église arrive à un moment où les moyens matériels permettent quand même de subvenir à pas mal de choses. Imaginez la crise de l'Église aujourd'hui, sans voiture et sans téléphone. On serait bien embarrassé quand même. Il faut voir la providence un petit peu en toutes choses. Donc ce que je viens de vous dire, là, sur l'emploi du temps, sur les sept éléments et puis sur les petits principes directeurs pour l'emploi du temps, bien sûr, dans l'emploi du temps, Dieu premier servi, donc... Ça aussi, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Dieu premier servi. Et puis, le principal avant l'accessoire. Donc, le plus important avant les choses secondaires. Donc, si on ne peut pas tout faire, ben, l'accessoire ou le secondaire, on le laisse de côté. Oui, mais ce n'est pas fait, il fallait que je le fasse. Ben, tant pis, ce n'est pas fait. C'est tout. Il faut mettre un ordre, il faut faire un choix. Et c'est ça, l'esprit de sacrifice. Faire un choix dans... les occupations qui ne sont pas absolument nécessaires, qui sont un petit peu secondaires. Alors, il y a des choses absolument nécessaires, bien sûr, qu'il faut arriver à les faire, mais après, ben, après c'est ce qu'on peut, quoi. Donc, soyez bien, bien appliqués à cet emploi du temps. Il faut se faire contrôler, il faut nous-mêmes le contrôler régulièrement, il faut le mettre au point, parce que, bon, c'est pas toujours facile. D'abord, on n'a pas trop l'habitude, ça demande du temps, parce qu'il faut nous discipliner. Et nous discipliner, ben, c'est difficile. Donc, il faut du temps pour arriver à le mettre au point, du temps pour le suivre, puis il faut adapter aux circonstances. Donc, c'est quelque chose qui, bon, certains points, les points fixes, là, ça ne doit pas varier. Il faut commencer par ça. Si vous avez tendance à être très désordonné, commencez par les points fixes. Le reste, attendez. Commencez par arriver... à avoir toujours les mêmes heures de lever et de coucher et les mêmes heures de repas. Commencez par ça. Et une fois que ça sera bien établi, le reste, vous pourrez y songer davantage. Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, donc il faut voir vraiment le principal. Et si vous avez réussi à vous discipliner un petit peu, ne serait-ce que pour ça, bah vous aurez déjà fait beaucoup. Alors sachez-le, c'est difficile. Je vous le dis, parce que ça englobe toute la vie avec tellement de détails et d'imprévus que forcément, il faut s'adapter. C'est pour ça qu'il faut s'adapter un petit peu du jour au lendemain. Alors le soir, on peut très bien le soir se dire, bon, je prévois ma journée du lendemain. Ou sur une semaine, je prévois ma semaine. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce qu'il faut gouverner notre vie et prévoir, c'est gouverner, comme on dit. Donc voilà quelques petites indications. Et puis, puisez beaucoup de courage auprès du bon Dieu. Demandez aussi conseil à l'Esprit Saint, bien sûr. Il faut demander la grâce de bien le faire, il faut demander conseil à l'Esprit Saint, et puis après conseil au directeur spirituel, c'est évident. Donc voilà, si vous voulez, ben vous avez ce petit bréviaire des jeunes, il y a quelques petites indications sur l'emploi du temps, comme je vous l'ai dit, il y en a... donc pendant une demi-heure à peu près, avant que nous allions devant le Saint-Sacrement, pour méditer et demander. C'est un grand mystère que la souffrance et la mort. La mort est entrée dans le monde par le péché, comme le dit saint Paul. Ce qui est magnifique, c'est que notre Seigneur a accepté, a voulu prendre la mort pour lui enlever cette condamnation, ce côté horrible des choses, puisqu'il a utilisé la mort pour nous racheter, pour nous sauver. Donc la souffrance et la mort, par la croix, perdent leur caractère horrible pour devenir source de grâce. Première chose, fausse attitude, c'est la fuir ou se raidir orgueilleusement comme si elle n'existait pas. Se raidir orgueilleusement contre. Bah, Jésus au jardin des Oliviers, il n'a pas fait ça. Il en a souffert, il a eu peur, il a eu une angoisse terrible devant l'épreuve qui allait lui arriver. Donc il n'a pas eu du tout cette espèce de fuite, ni cette raideur, ni cette ignorance. Il a bien vu que c'était là et il a eu peur. Mon âme est triste à en mourir. Donc il l'a éprouvé. Donc il n'y a pas cette fuite, il n'y a pas cet éloignement. Deuxième fausse attitude, c'est s'effondrer, se laisser écraser sans réagir. Être vaincu, autrement dit. Cela, bien sûr, n'est pas bon, c'est ce qui arrive le plus souvent. Ou alors la révolte, aussi, bien sûr. On se révolte contre Dieu, comme si c'était Dieu le coupable. Non, c'est nous les coupables, bien sûr. Autre fausse attitude, la rechercher, s'y plaire, espèce de masochisme qui aime la souffrance pour elle-même. On pourrait peut-être nous accuser si nous disons un peu trop brutalement « Bon, c'était la volonté de Dieu, c'était la volonté de Dieu. » Bon, si on dit ça un petit peu brutalement comme ça, ça peut faire penser à cela. Jésus, notre Seigneur, au jardin des Oliviers, ne recherche pas cette souffrance. Au contraire, il voudrait qu'elle s'éloigne. « Mon Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. » Donc notre Seigneur n'a pas du tout envie de la prendre, humainement parlant. Il faut bien voir cela. S'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. Donc pour nous, ça sera un peu pareil. Hein. Si on a la souffrance, ben, nous dirons la même chose. Si c'est possible, ben, je voudrais bien que ça s'en aille. Ben, c'est normal comme attitude. Notre Seigneur l'a eu. Alors la souffrance n'est pas un but. À aimer n'est pas un bien qu'on puisse vouloir pour lui-même. Souffrance, la mort, c'est un manque de quelque chose qui devrait être présent. Mais par la miséricorde de Jésus-Christ, cela devient moyen, source de grâce. Donc l'attitude chrétienne, ce que je viens de dire, c'est la considérer comme un moyen, un passage, non pas un but auquel on s'arrête, mais un moyen, un passage, vers un grand bien. Un grand bien. Ce bien, c'est le ciel, bien sûr, mais ça, c'est un peu éloigné. Alors, ce bien, c'est nous dépasser, grandir. L'épreuve grandit, ennoblit, croître en charité par le détachement complet, le sacrifice. La charité se nourrit de sacrifice. C'est aussi participer à l'œuvre de la rédemption. C'est le mystère de la rédemption qui se continue à travers nos souffrances. À nous baptiser surtout, hein, bien sûr. Alors, un moyen, un passage pour nous-mêmes et pour les autres. Pour nous-mêmes, eh bien, une purification des restes du péché. Le père émonde la vigne. Vous connaissez la parabole de la vigne ? Le père de famille émonde la vigne, il enlève tout ce qui ne sert à rien. Bah. Oui, mais ça, quand le bon Dieu vient avec son bistouri, qu'il enlève tout ce qui ne sert à rien, bah, on n'aime pas. C'est tout. Mais c'est un avantage, c'est un bien. Chirurgicale, elle fait mal, mais c'est un bien. Le résultat est un bien. C'est l'expiation de nos péchés. Ah, ça, il faut l'accepter aussi. Une expiation de nos péchés, la peine à purger, si je puis dire. La peine à porter. Puis c'est l'augmentation en charité, en toute vertu. Il est évident que si on est capable de cette grande chose de souffrir, et souffrir c'est toujours être dépouillé de quelque chose, si on est capable d'un grand dépouillement pour Dieu, ben, c'est la charité qui augmente. On se dépouille des choses créées, qu'est-ce qui prend la place? Ben, c'est Dieu, donc on augmente en charité. On augmente en vertu, on mérite des grâces. Et c'est ce que dit, c'est toujours la parole Paul de la vigne, le père de famille émonde la vigne pour qu'elle porte plus de fruits. Les fruits, c'est les vertus, les charités et la charité, pour qu'elle porte plus de fruits. Donc pour nous-mêmes, c'est purification, expiation de nos péchés, augmenter en charité, en vertu. Et je vous rappelle qu'il est plus intéressant de souffrir sur terre qu'au purgatoire. Au purgatoire, on souffre, mais c'est uniquement pour expier le péché. On ne peut pas mériter, on ne peut pas augmenter en charité. Et ça ne sert à rien pour les autres non plus. Alors, l'avantage sur terre, c'est qu'en plus de l'expiation de la peine de nos péchés, due à nos péchés, on se purifie, on mérite, on grandit en charité. Alors, c'est quand même plus intéressant. Puis d'abord, on en aura moins après. Et en plus, comme nos peines, nos souffrances terrestres, nous pouvons les unir au sacrifice de Jésus-Christ, nous leur donnons une valeur plus grande et c'est plus efficace. Toutes les peines de la vie sont faites pour nous purifier du péché, expier nos péchés. Donc quand c'est Dom Marmion qui donne ce conseil, quand vous allez vous confesser, bon, le prêtre donne une petite pénitence, eh bien, cette pénitence unissait les souffrances de la journée ou de la semaine pour que ça serve à l'expiation de vos péchés. C'est un conseil qu'il donne, il faudrait retrouver à quel endroit, mais il dit ça pour unissait les souffrances du jour ou de la semaine à la pénitence qu'impose le prêtre, et comme ça, ça fait quelque chose d'une valeur plus grande. Les autres. Eh bien, les souffrances peuvent sauver les âmes. Par cela. Fatima, la Sainte Vierge, nous dit « Beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie et se sacrifie pour elles. » Donc, toutes les petites peines quotidiennes, mais surtout toutes les petites, et il y en a beaucoup dans une journée, offrons-les généreusement. Donc la souffrance unie à celle de Jésus-Christ, unie à celle de Jésus-Christ à la messe, est un trésor de grâce. C'est un trésor. Nous voyons ça comme un trésor, parce que ça nous obtient des grâces. Comme moyen qui nous obtient des grâces. Trésor de grâce nécessaire au salut des âmes. Je vous cite cette parole de notre Seigneur, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. » Il faut mourir d'une manière ou d'une autre. C'est le vieil homme qu'il faut faire mourir, bien sûr, pour porter du fruit. Et j'ajoute, l'Église a un besoin urgent de ses souffrances pour la sainteté des prêtres. Il n'y aura pas de renouveau de l'Église sans la sainteté des prêtres, des religieux, des religieuses. Et il faut donc des âmes souffrantes, généreuses, unies au sacrifice de Jésus-Christ pour mériter cette sainteté. Autre petite comparaison, vous pouvez dire que l'Église est un grand corps, c'est le corps mystique de Jésus-Christ, un corps malade de tous les côtés, agonisant. Alors, il faut lui faire le goutte-à-goutte pour le relever, pour le ranimer. Et le goutte-à-goutte, ce sont nos souffrances offertes à tout instant. Le goutte-à-goutte pour l'Église. C'est une comparaison, mais qui peut nous aider à comprendre. Donc la souffrance est un moyen, un passage vers un grand bien. Et la liturgie, juste après la consécration, unit la passion au bien qui viennent de la passion, c'est-à-dire la résurrection et l'ascension. Juste après la consécration, vous avez cette prière qui unit la passion à la résurrection et à l'ascension. Le sacrifice de Jésus, sa mort, est présente sur l'autel et l'Église offre à Dieu non seulement cette passion qui est présente, mais la résurrection et l'ascension. Elle unit tout comme sacrifice offert à Dieu. Parce que la mort n'est pas un but, c'est le moyen qui conduit à la gloire de la résurrection et de l'ascension. Et c'est tout qui est l'œuvre de notre rédemption. C'est l'ensemble qui est l'œuvre de notre rédemption. Notre rédemption ne s'arrête pas à la croix. Notre rédemption se termine à la gloire du ciel. Et c'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder le moyen. Le passage n'est pas très intéressant. Il faut regarder le but à atteindre, la gloire éternelle. Donc dans l'épreuve, il faut viser la gloire, les grâces que nous pouvons en recevoir, ce que nous avons dit tout à l'heure, pour nous-mêmes ou pour les autres. Et saint Paul nous dit, le poids de gloire qui nous attend au ciel est sans commune mesure avec les souffrances d'ici-bas. Ce n'est pas situé textuellement, mais c'est à peu près cela qu'il dit. Le poids de gloire qui nous attend au ciel est sans commune mesure avec les souffrances d'ici-bas. Donc vous dites, ma souffrance est très grande, eh bien si je l'offre comme il faut, le poids de gloire au ciel sera beaucoup plus. Voilà ce qu'il faut se dire. C'est donc un moyen, un passage, mais moyen nécessaire à cause du péché. Là, s'il n'y avait pas eu le péché, il n'y aurait pas la croix, il n'y aurait pas la souffrance. Nécessaire à cause du péché. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à cette souffrance? Il faut donner à la souffrance, à l'épreuve, à ce moyen, donc, à cette volonté de Dieu qui nous impose ce moyen, lui donner un plein consentement du fond du cœur sans condition. Plein consentement du fond du cœur et sans condition. C'est encore notre Seigneur au jardin des Oliviers, non pas ma volonté, mais votre volonté. Il faut consentir pleinement à la volonté de Dieu qui nous impose cette souffrance, car cette volonté de Dieu est et sera toujours infiniment sage et infiniment bonne. Infiniment sage et infiniment bonne, même dans l'épreuve la plus difficile ou la plus incompréhensible. Sage infiniment bonne. Seulement, comme c'est la volonté de Dieu et que Dieu est infini, on ne comprend pas, bien sûr. Saint Paul le dit encore dans la première épître aux Corinthiens, ça doit être au chapitre 2, que vous connaissez, la croix est un scandale pour les juifs, elle est folie pour les gentils, mais elle est sagesse de Dieu. Ah. La croix sans la foi, c'est le mur sur lequel on bute. Donc il faut consentir pleinement à cette volonté de Dieu. Ensuite, il faut nous dire que c'est un don de Dieu. Bien sûr, c'est la volonté de Dieu, c'est un don de Dieu, c'est une grâce. Souffrir pour Jésus-Christ est un don de Dieu à l'égal de la foi. Saint Paul, donc l'Esprit Saint. Souffrir pour Jésus-Christ est un don de Dieu à l'égal de la foi. C'est Saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 29. Philippiens 1, 29. Je cite, « C'est un don que Dieu vous a fait, non seulement de croire en Jésus-Christ, mais encore de souffrir pour lui. » Il faut consentir à la volonté du bon Dieu, et cette grâce nous est donnée. Donc dans la croix, il y a toujours la grâce. Si nous refusons, que se passe-t-il ? Ben, nous quittons le chemin où la grâce se trouvait. Si on refuse la croix et la grâce est dans la croix, si on refuse la croix, on quitte le chemin où la grâce se trouvait. On se retrouve sans la grâce, seul, et la croix est toujours là. Alors c'est beaucoup plus dur. Mais si nous acceptons, alors nous restons dans le chemin, donc avec la grâce, et cette grâce nous soutient, Jésus est là, qui porte la croix en nous. C'est plus facile. Donc, si je résume, c'est un moyen, un passage, qui, pour nous et pour les autres, passage vers la gloire, vers plus de charité, vers des purifications, vers l'expiation de nos péchés. Bon, moyen nécessaire. Et il faut y donner un plein consentement du fond du cœur. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, vous connaîtrez la paix. Et même la joie au milieu des larmes. Je surabonde de joie dans mes tribulations. J'ai bientôt fini. Donc, vous connaîtrez la paix, la joie, mêlés aux larmes, les deux en même temps. Ça paraît incompréhensible, mais il y aura les deux en même temps. Je dois reconnaître que j'avais du mal à le comprendre, mais comme je l'ai vu, ben, ça me paraît possible. Et j'ai compris maintenant. Donc je surabonde de joie dans mes tribulations. Oui, vous avez la larme, les larmes, la souffrance, parce que la douleur, l'épreuve est là. Mais comme en même temps vous avez le bien qui arrive, mais vous avez la joie du bien qui arrive, de la charité, de l'union à Dieu. Alors les deux sont ensemble. Alors comment y parvenir ? Parce que c'est pas si facile quand même. Comment y parvenir ? Bien, je crois qu'il y a cette parole de notre Seigneur, enfin deux paroles de notre Seigneur. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Je ne sais plus où ça se trouve, mais celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Et notre Seigneur dit encore, là vous connaissez, celui qui veut venir à ma suite, qu'il se renonce, qu'il porte sa croix tous les jours et qu'il me suive. Donc, la fidélité de tous les jours aux petites croix. Ce qui résume les deux citations, fidélité de tous les jours aux petites croix. Qui est tout à fait voisin, l'esprit de sacrifice, de renoncement, par amour de Dieu. Donc la fidélité de tous les jours aux petites croix et l'esprit de sacrifice, de renoncement par amour de Jésus-Christ. Alors quand les grandes choses arriveront, ben, nous serons prêts. Mais si nous n'avons pas fait ça, quand la grande chose arrive, nous ne sommes pas prêts, et alors on bute dessus. Donc, première chose pour y parvenir, fidélité aux petites croix, et ensuite la Très Sainte Vierge. D'abord parce que la Très Sainte Vierge est un modèle dans le genre, puis c'est un oui continuel depuis l'Annonciation jusqu'à la croix. Un oui continuel à la volonté du bon Dieu et à l'Annonciation, quand elle a dit oui, elle savait que ça serait douloureux. Et elle y a consenti à l'avance. Et la croix. Elle ne se contente pas d'accepter. Elle offre son Fils de tout son cœur. Et puis, la Sainte Vierge est une mère, donc elle nous aidera. Elle nous aidera à consentir pleinement à la volonté du bon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelque chose de très simple. Bien, se reposer en elle. C'est une espèce d'attitude d'âme. On se repose en elle, on s'abandonne en elle, comme un petit enfant dans les bras de sa maman. Alors, on fait silence dans notre âme devant une image de la Sainte Vierge. Puis, on attend en silence qu'elle nous calme, qu'elle nous pacifie, qu'elle nous communique la grâce d'accepter pleinement et généreusement de bon cœur. Prière simple. Se mettre devant une image à la Sainte Vierge en silence, en disant à la Sainte Vierge, vous savez un peu pourquoi je suis là, pacifiez-moi, communiquez-moi cette grâce d'accepter pleinement les souffrances. Mais je crois, il me semble que c'est très important, cette fidélité aux petites croix, cet esprit de sacrifice, d'union au sacrifice de Jésus-Christ. Alors nous allons méditer cela, nous pourrons regarder dans cette demi-heure de devant le Saint-Sacrement, méditer Jésus au Jardin des Oliviers. Tout simplement, vous savez que l'heure sainte, ça consiste à passer une heure de méditation